Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons encore une fois merci pour la grâce que tu nous accordes de nous retrouver encore une fois en ces lieux. Enfin, Seigneur, de t'adorer, enfin, Seigneur, de te louer et d'écouter de ta part. Dans ces prières ce soir, Seigneur, que tu puisses encore une fois nous parler. Nous prions, Père éternel, que cette parole, Seigneur, que tu as prévue pour nous, Seigneur, puisse réellement toucher les besoins de chacun d'entre nous dans des diverses domaines de sa vie, dans des divers domaines de sa vie, afin que nous soyons réellement ces personnes-là qui vivent pour toi. Nous prions, Seigneur, que tu puisses ouvrir les yeux de nos cœurs, afin que nous puissions voir, Seigneur, ce que tu as en réserve pour nous, et que nos cœurs soient réceptifs à cette parole, afin, Seigneur, qu'elle puisse porter des fruits. Je prie pour moi-même, je prie, Père éternel, que tu puisses encore une fois m'utiliser pour ta gloire, car c'est dans les noms précieux de Jésus que nous te prions. Amen. Alors, bonsoir encore une fois. Voilà, nous allons continuer avec ces leçons que nous sommes en train de recevoir au courant de ces séminaires. Mais c'est des semaines aussi, c'est un séminaire, mais c'est aussi des semaines où nous sommes en train de venir humblement devant Dieu, de nous humilier devant lui, afin de lui demander de nous guider au travers de cette année. Et nous sommes en train de faire cela à travers les jeûnes et la prière. Et je bénis encore une fois l'Éternel pour la grâce qu'il nous accorde et qu'il m'accorde particulièrement de continuer avec la tâche qui m'a été assignée de donner 3 messages au courant de cette semaine, de ces 2 semaines de jeûne et de prière. Je dis merci à Dieu, je dis merci pour tout, à toutes les personnes qui prient pour nous, qui nous mettons ici devant, parce que la tâche n'est pas toujours facile. Et je prie que le Seigneur nous aide, même pendant que nous serons en train de partager. Hier, nous avons vu le thème sur la part de Dieu et notre part dans la restauration de la nation. Nous avons vu la part de Dieu et notre part dans la restauration de la nation. Et quand nous avons fini, quand nous étions en train de conclure le message d'hier, nous avons vu que Dieu a une catégorie de personnes, mais aussi un groupe, une catégorie de groupes d'individus ou une catégorie de peuples qu'il utilise pour la restauration de la nation. Nous avons vu l'exemple de Josué comme étant une personne vraiment caractéristique de ces gens-là que Dieu utilise pour la restauration de la nation. Nous avons vu que Josué était une personne qui était en synergie avec Dieu. Nous avons vu qu'il était prompt à agir en fonction de ce que Dieu lui donnait comme parole. Nous avons vu qu'il associait aussi les autres à la tâche et nous avons vu qu'il avait des directives claires sur ce qui devait être fait. Nous avons également vu dans la nation d'Israël que pour que ces gens-là puissent être en mesure de conquérir, d'acquérir, de s'approprier de la promesse que Dieu avait pour eux, qui était la terre promise, ils devaient réellement agir comme une unité. L'unité. Il devait être un, parce que la restauration de la nation ne passe pas seulement par des individus, mais elle passe également par des groupes d'individus. Nous avons vu que toutes les communautés doivent faire de la restauration de la nation leur préoccupation pour que cela soit effectif. Nous ne devons pas rester dans notre zone de confort et ignorer que les autres sont encore en souffrance. Les autres n'ont pas encore expérimenté la délivrance, les autres n'ont pas encore expérimenté le développement et même la destinée que nous avons. C'était comme ça que nous avons conclu hier et c'est dans cette même perspective que nous allons aborder et continuer avec le thème de ce jour qui nous a été proposé. Et ce thème est intitulé « Nous sommes un peuple des sacrificateurs ». Nous sommes un peuple des sacrificateurs. Parce qu'il est vrai que même si Dieu nous sauve individuellement, il le fait dans le but de nous adopter dans la grande famille des croyants à travers son Église. Il le fait dans le but de nous greffer à une famille, la famille des croyants. Et si nous voulons être efficaces dans la mission, la destinée à laquelle Dieu nous appelle, personne ne peut y arriver seul. Cette tâche ne repose pas sur les épaules d'un seul individu Parce que Dieu, quand il parle de « Je connais les plans que j'ai formés pour vous », il ne parle pas seulement d'un seul Israélite, il ne parle pas seulement d'un seul individu, mais il parle du peuple tout entier. Donc cette tâche ne repose pas seulement sur les épaules d'un seul individu, parce que cet appel que nous avons, c'est un appel collectif. C'est un appel, c'est vrai, qui commence individuellement, mais Dieu ne s'arrête pas là, il nous greffe à la communauté des croyants, pour que collectivement nous soyons en mesure d'accomplir ce à quoi il nous appelle. Mais alors, de quel genre de communauté suis-je en train de parler ici? Alors, les passages qui vont informer notre méditation de ce soir sont dans Apocalypse chapitre 5, à partir du 8e verset jusqu'au 10e verset, et Apocalypse chapitre 8, à partir du 3e jusqu'au 5e verset. Il y aura d'autres portions d'écriture que nous allons lire au fur et à mesure que nous avançons avec les messages de ce soir. Apocalypse chapitre 5, verset 8 dit « Et quand il y prit les livres, les quatre animaux et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, ayant chacun des harpes et des coupes d'or pleines de parfums, lesquelles sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau, disant « Tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu nous as rachetés à Dieu par ton sang de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu nous as fait rois et sacrificateurs à notre Dieu et nous régnerons sur la terre. » Apocalypse chapitre 8, versets 3 à 5. Et il vint un autre ange qui se tint près de l'autel, ayant un encensoir d'or. Et on lui donna beaucoup de parfums pour les offrir avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. Et la fumée des parfums avec des prières des saints monta de la main de l'ange devant Dieu. Ensuite, l'ange prit l'encensoir et les remplit du feu de l'autel et les jeta sur la terre, et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement, parole du Seigneur. Et donc j'étais en train de dire que le message d'aujourd'hui vient vraiment comme une suite de celui d'hier, parce que plus que jamais nous sommes appelés à être conscients de qui nous sommes, de notre identité en Dieu. Hier, j'ai donné deux éléments qui ont caractérisé les Israélites avant qu'ils ne passent à la conquête de la terre promise. Et aujourd'hui, nous allons encore aller plus en profondeur pour comprendre la force et le pouvoir qu'il y a derrière notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a réellement des gens, à cause du fait qu'ils ne connaissent pas quelle est leur identité en Dieu, ils sont totalement perdus. Ils sont amenés ici et là chez des faux enseignants. Et ils sont manipulés de toutes sortes parce qu'ils ne connaissent pas la force de leur identité. Et j'étais en train de le dire ce matin, quand nous étions avec les autres, que pendant que nous sommes en train de chercher Dieu, pendant que nous sommes en train de prier que Dieu accomplisse des miracles dans notre vie, nous ne devons pas ignorer les miracles que nous sommes. Parce que ce que Dieu a accompli en nous, ce que Dieu accomplit en nous à travers les saluts est le plus grand miracle que Dieu accomplit dans notre temps. Pendant que nous sommes en train de vouloir que Dieu puisse agir miraculeusement au milieu de nous, nous ne devons pas, nous devons aussi nous rappeler de quel miracle nous sommes. Parce qu'il y a de la force, il y a un pouvoir immesurable dans notre identité en Dieu. Et quelqu'un a un jour dit qu'un changement d'identité précède toujours un changement d'activité. Un changement d'identité précède toujours un changement d'activité. Parce que notre identité en Dieu, notre identité individuelle, aussi bien que collective, est directement liée au but ou à la raison de notre existence. Aujourd'hui, nous sommes en train de venir devant Dieu dans la prière, mais il y a d'autres qui ne comprennent même pas encore qu'ils peuvent venir devant Dieu dans la prière avec foi et il va les écouter. J'ai vu récemment une vidéo qui circule sur les médias sociaux. C'est la vidéo d'un faux prophète. Il est aussi au Congo, je ne sais pas s'il est à Goma, mais il parle Swahili. Et cette vidéo m'a choqué. Parce que dans cette vidéo, c'est que ça se passe, c'est vrai, c'est une réalité. ces prophètes-là, ils marchandent les prophéties, en fait. Marchandent les prophéties. Et la dernière vidéo que j'ai vue de cet homme-là, il y a une dame, une jeune fille d'une vingtaine d'années, j'estime, une vingtaine d'années, qui s'approche et elle dit, je viens aussi, j'ai besoin que vous puissiez m'aider. Et les faux prophètes lui demandent, qu'est-ce qui ne va pas? Quel est ton problème? La dame dit, non, ça fait un moment que j'ai des maux ici. Et le faux prophète lui dit, ok, donne d'abord 10 dollars. Et la femme dit, ah, je regarde dans mon sac à main, j'ai seulement 5000 francs. Et ce faux prophète-là lui dit, c'est 10 dollars ou rien. 10 dollars ou rien. C'est vrai, ce n'est pas faux. C'est très vrai. 10 dollars ou rien. Va chercher les restes. Va chercher les restes. C'est vrai. Pourquoi ces personnes sont en train d'être manipulées? C'est parce que beaucoup de gens qui professent être des chrétiens ne comprennent pas encore la force qu'il y a dans notre identité en tant qu'enfants de Dieu. Et c'est comme ça qu'ils sont manipulés ici et là. Ils sont manipulés ici et là. Et l'erreur que nombreuses personnes commettent, c'est de vouloir définir cette identité par elles-mêmes. C'est de vouloir la définir par elles-mêmes. Il y a une histoire très ancienne, c'est une histoire du folklore du Moyen-Orient. Je pense l'avoir déjà racontée aux jeunes ici. Et c'est l'histoire des 6 aveugles. 6 aveugles à qui on demande de décrire un éléphant. Ils ne savent pas que c'est un éléphant, ce sont des aveugles. Mais on leur dit qu'à partir du toucher, essayez quand même de nous dire qu'est-ce qu'il y a là devant vous. Et le premier aveugle approche l'éléphant. Il touche avec ses mains, il essaie d'examiner. Et à cause de son aveuglement, il conclut en touchant la patte de cet éléphant que non, c'est un tronc d'arbre qu'il y a ici. C'est un tronc d'arbre qu'il y a ici. Le deuxième aveugle passe et lui tombe sur la trompe de l'éléphant. Il touche la trompe, il voit que c'est quand même un peu flexible, mais c'est quand même gros. Et il conclut, non, ça doit être un tuyau. C'est un tuyau. Troisième aveugle aussi vient, mais lui, il tombe sur la corde. C'est un peu c'est l'un après l'autre en train d'essayer de décrire ce qu'il y avait devant eux. Ils sont tous tombés sur des conclusions qui étaient fausses. Pourquoi? Parce qu'ils étaient aveugles. Il a fallu qu'il y ait un homme qui, lui, avait sa vie, qui était en train de regarder la scène. Et c'est cet homme qui a réellement dit, ce que vous avez en face de vous, c'est un éléphant. C'est un éléphant. Et c'est la même chose. Cette histoire s'applique aussi à nous et nous montre combien notre connaissance, quand il s'agit de notre identité, est incomplète. Quand nous essayons de définir notre identité par nous-mêmes, nous n'y arrivons pas parce que nous n'avons pas vraiment la connaissance de celui qui nous a créés. Nous n'avons pas la connaissance infinie de celui qui n'a ni début ni fin. Celui qui voit le passé et le futur en une seule vue. Quelqu'un a un jour dit que Dieu n'a pas besoin de rétroviseur pour voir ce qui est derrière lui. Il voit le passé et le présent en une seule vie. Et donc, c'est lui qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Et le passage que nous venons de lire en Apocalypse, Dieu est en train de décrire la communauté, ce genre de personnes qu'il utilise, ce peuple-là qu'il a choisi, ce peuple qu'il appelle à être son représentant ici sur terre. La Bible nous dit, il chantait des cantiques nouveaux. Tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu nous as rachetés à Dieu par ton sang. De toute tribu, Dieu nous a rachetés. De toute tribu, tout ça, ce sont des indicateurs, des choses que nous utilisons pour nous distinguer les uns des autres. De toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et de toute nation. La communauté que Dieu a en tête, c'est une communauté qui n'est pas tout à fait uniforme, mais à cause du sang de l'agneau, à cause du rachat que nous avons en Jésus, cette communauté qui n'est pas uniforme devient un. Parce qu'être uni n'est pas être uniforme. De toute tribu, continue en disant, tu nous as fait roi et sacrificateur à notre Dieu et nous régnerons sur la terre. Alors ce concept-là des sacrificateurs, c'est un concept qui est très ancien. Ce n'est pas seulement dans les livres d'Apocalypse que nous pouvons les trouver. Même Pierre, quand il écrit son premier épître, il parle aussi de ce concept-là des sacrificateurs. ou de sacerdoce. 1 Pierre chapitre 2 au verset 9. Je pense que c'est un verset auquel beaucoup d'entre nous sont très familiers. 1 Pierre chapitre 2 verset 9 dit: Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes un sacerdoce royal. En anglais, on dit nous sommes a royal priesthood. Ça veut dire des prêtres royaux ou des sacrificateurs royaux. Royal priesthood. Le même concept est là. Mais qu'est-ce que ces gens veulent dire à travers ces mots-là, un prêtre ou un sacrificateur roi ou un sacrificateur royal? Ce qu'ils veulent dire tout simplement, c'est que quand Dieu nous voit, ce que Dieu dit de nous, c'est que nous sommes un sacrificateur. Ça veut dire que nous sommes des prêtres royaux, nous sommes des médiateurs entre lui et les autres et le peuple. Que pour parvenir à Dieu, en fait, le rôle des sacrificateurs par le passé était d'être des médiateurs entre Dieu et le peuple. Et c'est ce que Dieu est en train de dire de nous. Quelqu'un à travers lequel il faut passer pour avoir accès à Dieu. Et dans le cas de la nation d'Israël, parmi toutes les autres nations de la terre, elle était aussi appelée à représenter Dieu. Parce que c'est le même concept des sacrificateurs. En fait, quand Pierre parle de vous êtes, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, il est en train de citer des paroles que Dieu avait déjà prononcées auparavant sur les enfants d'Israël. En Exode chapitre 19, versets 5 et 6, Dieu a dit ces mêmes paroles sur les enfants d'Israël. Nous pouvons lire très rapidement Exode chapitre 19, versets 5 et 6. Exode chapitre 19, versets 5 et 6 dit: Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous êtes une nation choisie. Vous m'appartiendrez. Vous serez pour moi un royaume des sacrificateurs et une nation sainte. Même parole que Dieu a prononcée sur les peuples d'Israël. Mais même bien avant que Dieu ne prononce ces paroles, sur le peuple d'Israël, sur la nation d'Israël. Nous connaissons tous que l'histoire de la Bible commence en Genèse, n'est-ce pas, où nous trouvons un lieu où le ciel et la terre sont en connexion directe. C'est le jardin d'Éden, n'est-ce pas? Nous trouvons ce lieu-là, une place où le ciel et la terre sont unifiés. Et dans cette place, Dieu installe des personnes faites à son image, Adam et Ève. Et qui sont aussi des sacrificateurs parce qu'il leur a donné la tâche de faire quoi? De dominer sur toute sa créature, de régner sur toute sa créature. Donc c'est un concept vraiment très ancien. Mais à cause de leur désobéissance, ils ont perdu ce privilège-là. Ils ont perdu ce privilège d'être ces représentants-là de Dieu sur la terre. Mais Dieu n'a pas laissé les choses telles qu'elles étaient à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'il est passé par Abraham, qu'il a appelé individuellement, pour que sa descendance soit également cette nation des sacrificateurs. C'est pour ça qu'il le dit en Exode chapitre 19, que vous, je vous ai délivrés pour que vous soyez des sacrificateurs. Des sacrificateurs. Et c'est pour ça que dans les déserts, Dieu établit les tabernacles. Et dans cette nation d'Israël, il choisit une tribu, la tribu des Lévites, qui vont être vraiment consacrés au service du tabernacle, du temple, être des sacrificateurs. Et c'est dans le cadre même de cette première alliance que Dieu fait avec Israël que nous trouvons maintenant la définition de qu'est-ce que les sacerdoces, qu'est-ce que les sacrificateurs font, qu'est-ce que les prêtres faisaient à cette époque-là. Parce que nous devons comprendre tous ces concepts-là afin d'être réellement et de comprendre que même aujourd'hui, nous, en tant que son Église, Dieu nous appelle à être des sacrificateurs. Alors, les sacrificateurs, leur première tâche, je viens de le dire que dans cette première alliance, ces sacrificateurs-là appartenaient aux fils d'Aaron et à la tribu de Lévi. Ces prêtres avaient au moins trois particularités. La première, c'est qu'ils avaient accès direct à Dieu.
Seul ce sacrificateur était autorisé à arriver au lieu très saint, au sein des saints, au lieu très saint, pour communiquer avec Dieu. La deuxième chose, c'est que ce sacrificateur représentait le peuple d'Israël auprès de Dieu. C'est eux qui amenaient les prières du peuple d'Israël auprès de Dieu. C'est eux qui faisaient ça. Et la troisième chose, c'est qu'ils apportaient aussi les offrandes du peuple à Dieu. C'est eux qui apportaient les offrandes du peuple à Dieu. C'est ce que les sacrificateurs faisaient dans la première alliance. Et c'était vraiment un honneur d'être choisi comme prêtre dans la première alliance. Mais si nous lisons l'histoire de l'Ancien Testament, nous voyons que même ces sacerdoces-là que Dieu a établis en Israël, les deux, à partir du verset 12 et 17, nous voyons l'histoire d'Élie, qui était aussi un sacrificateur, mais ses fils qui étaient aussi, normalement, qui devaient suivre la même lignée des sacrificateurs, quand nous lisons leur comportement, nous voyons que c'était des gens qui ont abusé de ces pouvoirs que Dieu leur avait octroyés. C'est là que ce premier groupe de sacrificateurs a commencé à échouer. Si nous pouvons lire 1 Samuel chapitre 2, versets 12 et 17, on ne va pas tout lire. Ça dit, verset 12, « Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, les serviteurs du sacrificateur arrivaient au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à trois dents. Ils piquaient dans la chaudière, dans les chaudrons, dans la marmite et dans les pots, et tout ce que la fourchette amenait, les sacrificateurs les prenaient pour lui. » Des offrandes que les gens amenaient pour Dieu, les sacrificateurs les prenaient pour lui. Ce n'est pas très différent de l'histoire que je viens de vous raconter ici. Ce n'est pas très différent. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient à Silo. Même avant qu'on fît brûler la graisse, les serviteurs du sacrificateur arrivaient et disaient à celui qui offrait les sacrifices, « Donne pour les sacrificateurs de la chair à rôtir. » Avant même qu'on amène les sacrifices pour les brûler, les serviteurs disent « Non, 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 les taillis, il y a prêtre. » Et donc c'est là que ces lévites ont commencé à échouer. Parce que quand il s'agit du pouvoir, quand il s'agit du pouvoir, il y a toujours une faible ligne de séparation entre la motivation et la manipulation. Une faible ligne de séparation entre la motivation et la manipulation. Et après l'échec de ces sacerdoces, quand Dieu vient parler à Élie et lui dire le jugement qu'il a sur sa famille, il dit quelque chose de très intéressant. Il fait une promesse. Il dit « Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon oin. » Dieu lui-même promet que je vais vous remplacer et je vais établir d'autres sacrificateurs. Parce que le plan de Dieu est consistant, c'est le même, il est pertinent à travers l'histoire. À travers l'histoire. Et après Élie, il y a Samuel qui devient, en fait ici, ces versets parlaient de Samuel, comme ses premiers sacrificateurs fidèles qui allaient remplacer les fils d'Élie. Mais nous voyons aussi que même par la suite, les fils de Samuel ont aussi échoué. Et le peuple d'Israël en réclamait un roi. Le peuple a finalement dit « Non, non, nous voulons un roi. » Et c'est pour ça que nous voyons David maintenant. C'est vrai qu'il y a eu Saül avant lui, mais c'est David qui a été un type, un caractéristique de roi et prêtre. David était un roi et un prêtre. Pourquoi? Parce que nous voyons dans son histoire que c'est le roi d'Israël qui a rétabli la louange en Israël. Parce que quand les fils d'Élie avaient désobéi, l'arche de l'Alliance avait été prise par les Philistins, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous lisez cette histoire, mais c'est vraiment un cycle qu'il faut lire pour comprendre où Dieu, comment Dieu est en train de mener le cours de l'histoire. L'arche de l'Alliance avait été prise, mais c'est David, c'est quand David a pris le pouvoir, quand il est devenu roi, que cette arche a été ramenée à Jérusalem. Et on nous dit dans les passages où David est en train de ramener l'arche à Jérusalem qu'il portait un lin d'éphod et il dansait devant cette procession-là. Les lins d'éphod, c'était les lins vraiment pour les prêtres. Et quand l'arche de l'Alliance est arrivée à Jérusalem, David a fait quoi? Il a offert un sacrifice et il a béni le peuple. C'était les fonctions d'un sacrificateur. Parce que David était exactement cet exemple des rois et des sacrificateurs. C'était un exemple de roi et de sacrificateur. Mais même lui, David, a échoué quelque part. Même lui n'était pas ce sacrificateur parfait qui pouvait nous réconcilier avec Dieu. Parce que nous connaissons tous l'histoire de comment il a échoué quand il a couché avec la femme d'Uri et tous les drames qui s'en est suivi. Mais comme Dieu est bon dans sa grâce, il a finalement envoyé son fils qui a vécu réellement comme un sacrificateur. Pas seulement un sacrificateur, mais aussi un sacrifice de bonne odeur. Les sacrifices acceptables qui payent le prix du péché du monde une fois pour toutes. Pour qu'en lui, nous ayons un accès direct à Dieu. Pour qu'en lui, nous ayons un accès direct en Dieu. C'est ça même qui fait de Jésus un sacrificateur de l'ordre de Melchisédek, comme le livre d'Hébreux le dit. Parce que Melchisédek, c'était un sacrificateur qui était même bien avant que Dieu puisse établir les Lévites. Et donc, en Jésus, nous n'avons plus besoin d'autres personnes pour nous représenter auprès de Dieu. Quand nous sommes en train de venir devant lui dans la prière au courant de ces 2 semaines, nous n'avons pas besoin d'intermédiaire. À partir du moment où nous avons cru, nous avons un accès direct à Dieu au travers de lui. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et nous, c'est Jésus. Et à partir du moment où nous le croyons, nous avons accès à Dieu. Il y a une histoire qu'on raconte, je ne sais pas si elle est vraie, c'est que pendant la guerre de sécession aux États-Unis, vous connaissez la guerre de sécession, eh bien, aux États-Unis, entre 1861 et 1865, il y avait eu ce qu'on appelait la guerre de sécession. La guerre de sécession était arrivée, pourquoi? Parce que les Américains du Nord voulaient que l'esclavage soit aboli. Mais les Américains du Sud, qui utilisaient les esclaves noirs dans leurs plantations, ont dit non, 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 vous allez affaiblir notre économie. Et les conflits sont montés et ces 2 parties de l'Amérique se sont battues. Les nordistes contre les sudistes. C'est ce qu'on appelle la guerre de sécession. Alors cette histoire qu'on raconte, on dit que pendant la guerre de sécession, suite à un drame familial, un soldat avait reçu la permission d'aller à Washington pour obtenir une exemption. Ça veut dire que ces soldats étaient en train de combattre pour les nordistes, ceux qui voulaient que l'esclavage soit aboli. Mais malheureusement, il y a eu quelque chose qui est arrivé dans sa famille et il fallait qu'il aille demander une grâce présidentielle pour qu'on lui permette de quitter les fronts et d'aller où? Dans sa famille. Mais en se présentant à la Maison Blanche, quand il s'est présenté à la Maison Blanche avec tout ce qu'il y avait comme business, occupation, les plans de la guerre et tout ça, il n'a pas eu un accès facile au président. Il n'a pas eu un accès facile, il n'a pas réussi à obtenir une audience avec le président. Et on nous dit que ce soldat était dans l'accablement, il était triste qu'il est allé s'asseoir sur un banc à l'extérieur de la Maison Blanche. Et là, à côté de ce banc, il y avait un petit garçon qui l'a approché. Et ce petit garçon engage la conversation avec ce soldat et lui dit, oh, qu'est-ce qui ne va pas? Je me trouve vraiment tout accablé, qu'est-ce qu'il y a? Et le soldat lui raconte toute son histoire, sa triste histoire. Et après que l'enfant l'ait écouté, l'enfant lui dit, suis-moi. Et ils entrent dans la Maison Blanche par une autre porte, par derrière, passent des portes de garde, croisent des généraux, des ministres et entrent sans frapper dans les bureaux du président des États-Unis, Abraham Lincoln. Et quand Abraham Lincoln, qui était vraiment très préoccupé par les planifications de la guerre, la logistique, quand il voit ce garçon, son visage s'illumine. Et il dit, Todd, qu'est-ce que tu fais là? Et le garçon lui dit, papa, ce soldat a besoin de te parler. Par les fils, les soldats avaient obtenu un accès au Père. C'est le même privilège que nous avons, nous, en tant que chrétiens. Quand nous croyons en Christ, nous avons accès au Père. Nous avons accès au Père. Par les fils, nous avons accès au Père. Même la réforme dont nous entendons parler, la réforme que Martin Luther a établie, a commencé quoi? Martin Luther a aussi parlé de ce concept ici, des sacrificateurs. Et dans ses déclarations, voici ce qu'il a dit. Martin Luther, les réformateurs, ok? Martin Luther King, c'est l'autre. Il a dit que tous ceux qui ont été baptisés, donc tous ceux qui ont crié et se sont fait baptiser, peuvent prétendre qu'ils ont déjà été consacrés prêtres, évêques, papes. C'était révolutionnaire. C'était révolutionnaire. C'est pour ça que l'Église catholique, en tout cas, n'était pas content. Elle voulait même faire tuer ces messieurs-là. Que tous ceux qui se savent chrétiens en soient donc assurés et se l'appliquent à eux-mêmes. Nous sommes tous prêtres. Nous sommes tous prêtres. Et il n'y a pas de différence entre nous. Il n'y a pas de différence entre nous. Nous sommes tous prêtres. Nous avons tous le même accès à Dieu. Cela ne veut pas dire que Dieu n'a pas aussi pensé au rôle que les pasteurs et les autres dirigeants devaient jouer dans l'Église. Dieu a donné différents dons, mais il a aussi établi des offices pour que son Église puisse fonctionner convenablement. Mais quand il en est de l'accès à Dieu, nous sommes tous prêtres. Nous avons tous le même accès à Dieu. Nous sommes tous des sacrificateurs à travers son Fils. Nous sommes tous des sacrificateurs. Et nous sommes tous appelés à offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Comme je viens de le dire, que les sacrifices, les sacrificateurs type modèle que nous suivons, qui est Jésus-Christ, il n'est pas seulement sacrificateur, mais il est également les sacrifices, parce qu'il s'est donné comme un sacrifice agréable afin que nous soyons sauvés. Si vous lisez Hébreux chapitre 10, le premier, le dernier verset, vous allez comprendre tous ces concepts-là de comment Jésus est réellement ce sacrifice qui a expié vraiment tous nos péchés. Il a payé pour tous les péchés du monde et il nous a donné accès au Père. C'est pour ça même que quand il est mort sur la croix, sa dernière parole était de dire « Tout est accompli, tout est accompli. Il n'y a plus de séparation entre l'homme et Dieu à travers moi, à travers l'œuvre que je viens d'accomplir. » Et symboliquement, le voile du temple s'est déchiré, n'est-ce pas? Symboliquement, le voile du temple s'est déchiré. Donc, nous sommes tous des sacrificateurs. Mais nous sommes aussi appelés à être des sacrifices vivants. Comme Christ, au modèle du Christ que nous suivons. C'est pour ça que Paul dit en Romains chapitre 12, versets 1 et 2, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. » Il était aussi le sacrifice. C'est pour ça que nous sommes appelés à nous offrir aussi au service du Seigneur, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Un culte raisonnable. Quelqu'un a dit que si Dieu n'est pas Dieu de tout dans notre vie, il n'est pas Dieu du tout. Si Dieu n'est pas Dieu de tout dans notre vie, il n'est pas Dieu du tout. Donc nous devons tout lui offrir. Nous sommes à la fois des sacrificateurs, nous sommes aussi appelés à être ce sacrifice qui est agréable à Dieu. Et nous ne sommes pas littéralement des prêtres, n'est-ce pas? Nous sommes des ingénieurs, nous sommes des enseignants, nous sommes des commerçants, des médecins, nous sommes tout ce que nous faisons, des étudiants, des élèves, ainsi de suite. Et là, on doit se demander, mais comment nous pouvons alors appliquer notre sacerdoce dans tous ces différents domaines où Dieu nous place? Eh bien, il y a une chose que nous devons aussi remarquer, c'est que quand Jésus monte au ciel, il a promis quelque chose à ses disciples, il leur a promis son esprit, n'est-ce pas? Il a promis que son Esprit Saint allait venir. Et donc, Jésus, à son ascension, a promis que mon esprit va descendre sur vous. Mon esprit va descendre sur vous. Parce que quand l'Esprit de Dieu descend sur nous, notre sacrificateur suprême, il est monté au ciel. Et là même, la Bible nous dit qu'il n'a pas arrêté de faire les services qu'il nous a offerts. Il continue toujours à être un sacrificateur, même quand il est au ciel. Hébreux chapitre 7, versets 24 et 25, On peut les lire très rapidement. Vous allez comprendre que le sacerdoce du Christ continue. Parce que lui, différemment des sacrificateurs de l'Ancien Testament, dont les sacerdotes s'arrêtaient à leur mort, son sacerdoce est éternel. Son sacerdoce est éternel. Hébreux chapitre 7, verset 22 dit « Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Il demeure éternellement, un sacerdoce éternel. » C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour faire quoi? Pour intercéder en leur faveur. Même là où il est, à la droite du Père, Jésus est en train d'intercéder en notre faveur. Il est en train d'intercéder en notre faveur. Un sacrificateur vivant et un sacerdoce éternel. Mais ce même sacerdoce, Jésus veut que nous l'appliquions ici. C'est pour ça que quand il est parti, il a promis de faire quoi? De nous donner son Esprit Saint. De nous donner son Esprit Saint afin que nous soyons une extension de qui il est ici sur terre. Dans l'Ancien Testament, il fallait aller à une place, n'est-ce pas, pour rencontrer Dieu. Mais l'ère que Jésus a inaugurée en nous donnant son Esprit Saint, il a fait de nous des temples, des tabernacles où son esprit habite, afin que le monde voie en nous une extension de qui il est. Martin Luther, que je viens de citer, a aussi dit que chaque chrétien doit être Christ pour son prochain. Chaque chrétien doit être Christ pour son prochain. Il doit être Christ pour son prochain. Il doit être Christ pour son prochain. Nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes appelés à être une extension de la personne de Dieu. Nous sommes appelés à être une émulation de Christ ici sur terre. Non seulement en état de sacrificateur, mais en étant aussi des sacrifices vivants et agréables à Dieu. J'étais en train de dire au début de ce message que Dieu, l'appel que Dieu a pour nous n'est pas un appel à le suivre individuellement. C'est un appel à les suivre en communion avec les autres que Dieu a appelés à lui-même. En d'autres mots, l'appel que Dieu a sur nos vies est un appel familial. Et en répondant à l'appel de vivre comme disciples du Christ et de chercher sa volonté dans ce monde, nous le faisons en tant que membres de la famille de Dieu. En tant que membres de la famille de Dieu. Et pour faire cela, nous devons être conscients de notre identité en tant que sacrificateurs. Parce que Christ est mort, le sacrifice suprême, pour faire de nous un royaume des sacrificateurs. Des sacrificateurs. Et c'est pour ça que nous devons accomplir ces sacerdoces. Que ce soit ici à l'église, que ce soit au dehors, là où Jésus, Dieu nous a placés, nous devons être ces sacrificateurs. Nous devons être Christ pour ceux qui sont autour de nous. Et ici à l'église, j'étais en train de suivre une vidéo d'un pasteur américain qui a demandé à son équipe d'illustrer sa plus grande peur, son plus grand cauchemar. Alors son équipe est allée réfléchir et ils ont monté une vidéo. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de la traiter, sinon on allait la voir, c'est vraiment intéressant. Je vais juste vous raconter. Et quand ce pasteur a demandé à son équipe d'illustrer sa plus grande peur par une vidéo, j'ai vu la vidéo, on voit ce pasteur arriver là-bas, dans la cour, comme si l'un de nos pasteurs pouvait arriver là-bas, à l'extérieur. Il arrive au temple le dimanche et il trouve qu'il n'y a personne. D'abord là-bas, à l'accueil, il n'y a pas de protocole, il n'y a personne pour accueillir les gens, il n'y a personne pour guider les véhicules qui entrent dans les parkings. Il est étonné de ne trouver personne au parking. Il continue, il entre dans les temples, parce que pour eux, quand vous entrez comme ça dans les temples, vous arrivez directement. Les pasteurs passent par derrière, ils arrivent directement aux médias. Il arrive aux médias, il trouve les écrans sont là, les ordinateurs sont là, mais il n'y a personne. Il n'y a personne. Et là, il appelle sa femme parce qu'il commence à paniquer. Il se dit, heureusement ce jour-là, il y avait quand même un prédicateur visiteur qui pouvait prêcher. Mais les pasteurs faisaient tout Il a dû faire tout. C'était ça, sa plus grande peur. Ils l'ont illustré par une vidéo. Et dans cette vidéo, on voit les pasteurs en train de courir ici et là. Il va aux médias, on les voit sur les caméras. Il va aux enfants, chez les enfants de l'école de dimanche. Et après, à la fin du culte, il se retrouve avec les paniers des offrandes et il s'écrie, waouh, quelqu'un a oublié de récolter, de collectionner les offrandes. Parce que nous sommes un peuple de sacrificateurs, mais nous sommes appelés à utiliser ces privilèges, pas seulement pour nous vanter d'être un peuple de sacrificateurs, mais pour servir. Pour servir. C'est un sacerdoce que Dieu nous a donné. La source de notre sacerdoce, de nos dons, c'est Dieu. Mais l'exercice approprié de ce sacerdoce, c'est servir. Servir ici à l'église et servir partout où Dieu nous appelle. C'est là que nous devenons une extension du corps du Christ. Et le but ultime de notre sacerdoce, c'est pour que Dieu soit glorifié. C'est pour que Dieu soit glorifié. Je vais conclure par les mots de ce cantique. C'est aussi un poème que j'aime beaucoup. Et c'est un cantique en anglais que j'ai écouté il y a longtemps. J'ai essayé de le traduire en français. Le titre original, c'est « Christ has no body now but yours ». Ça veut dire que Christ n'a plus de corps que le vôtre aujourd'hui, ou que le nôtre, que le mien. Christ n'a pas d'autre corps aujourd'hui que le mien. C'est comme un écho à ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, que nous sommes le temple, n'est-ce pas, de l'Esprit Saint. Et le poème dit, Christ n'a plus de corps que le vôtre. Il n'a pas de mains, pas de pieds sur terre, à part le vôtre ou le nôtre. À toi sont les yeux avec lesquels il voit. Il voit avec nos yeux. À toi sont les pieds avec lesquels il marche. Et nous avons les mains avec lesquelles il bénit le monde entier. Ce sont les mains qu'il utilise pour bénir le monde entier. Nous sommes un peuple des sacrificateurs. Nous allons nous lever et nous allons demander à Dieu de nous aider à être réellement ces sacrificateurs-là. À être réellement ce peuple qui représente Dieu partout où nous sommes. Parce que réellement, c'est un appel qui est grand et c'est en faisant cela que nous allons voir la transformation réelle arriver dans ce monde ici. Et nous allons chanter ce refrain qui dit « Accepte mon offrande, ô Jésus, Fils de Dieu. » Et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Consacre à ton service. Consacre à ton service mon cœur et mon esprit. En vivant sacrifice au Seigneur Jésus-Christ, accepte mon offrande au Saint-Dieu. Nous allons prier, chacun de nous va élever sa voix et va demander à Dieu d'accepter son offrande. Nous voulons réellement être ce sacrifice agréable à Dieu. Nous voulons être ce sacrificateur et ce sacrifice à l'exemple du Christ qui est mort pour nous, afin de nous donner accès direct au Père. Père éternel, nous venons devant toi encore une fois ce soir pour te demander de nous aider à être réellement ce sacrifice. À être réellement ce sacrificateur, Seigneur, qui te représente, à être ce médiateur, Seigneur, entre les peuples, entre le monde et toi, afin que le monde puisse voir qui tu es, afin que ceux qui sont autour de nous puissent également te connaître et rejoindre ces peuples, ces royaumes de sacrificateurs. Dieu de gloire, nous avons besoin de toi parce que cette mission que tu nous donnes, Nous ne pouvons l'accomplir sans toi. C'est pourquoi, Père, nous prions que tu puisses marcher avec nous, que tu puisses aider chacun d'entre nous à jouer son rôle, à utiliser son don, son sacerdoce pour se servir au Dieu de gloire partout où tu nous places. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Prends contrôle, ô Dieu de gloire. Viens, Seigneur, et aide-nous à être réellement des sacrificateurs, Seigneur, pour toi. Accepte, accepte mon offrande, ô Jésus-Christ et Dieu.